Interview.
1RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, alors que mon micro tombe un peu, je suis désolé, en compagnie de Françoise Mar et Jean-Claude Rouchouz, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous représentez le REDAR, cette association qui fait de l'accueil de réfugiés, des familles entières hein, notamment. Est-ce que vous pouvez nous la resituer un petit peu pour les auditrices et auditeurs qui découvrent
le REDAR? Déjà, le mot REDAR, c'est Réseau d'IWA d'accueil des réfugiés. Hein ? Donc, c'est la seule association, loi 1901, installée dans le DIWA depuis 2017. Hein. Voilà, donc on a fait l'accueil déjà d'une famille venant d'Irak. Et on a accompagné, soutenu, sur tous les plans administratifs, santé, langue, apprentissage des langues, parce qu'ils sont arrivés sans parler un seul mot de français. Donc on les a soutenus, aidés.
Y compris sur l'aspect administratif, un conseil très compliqué.
Alors ouais. ils sont venus dans des conditions légales, c'est-à-dire qu'ils ont eu un visa de la part du consulat d'Erbil en Irak. Donc ils sont arrivés dans des conditions légales et... C'est l'association REDAR qui avait fait la demande hein, en Irak pour cette famille. Donc, ils sont venus légalement. Et quand ils se sont installés, on a trouvé, grâce à l'Église catholique, un logement. C'est une famille de 8, hein, 6 enfants, 2 adultes. Hein. Donc, on leur a trouvé un logement à Lucandiwa. Et depuis, eh bien, ils sont bien installés, bien accueillis. À Lucandiwa, ils ont obtenu l'asile politique.
Mais peut-on savoir justement pourquoi ils partaient
direct ? Tout s'est bien passé. Parce que, alors c'était des Irakiens d'obédience yézidi. Mm. Et les yézidis en Irak, avec Daesh, ont eu des milliers de morts et ont été plus que menacés, beaucoup plus que menacés.
Assassinés en grand nombre.
Assassinés.
C'est pourquoi le gouvernement leur accorde un visa presque automatiquement.
Voilà. Pour qu'ils quittent le pays, quoi. Plutôt que de s'occuper de ce problème.
Oui.
C'est assez étonnant.
Ouais.
Ils pourraient essayer de régler le problème de communauté.
Les autorités françaises.
Ah, françaises. Très bien.
Leur accordent beaucoup plus facilement qu'à d'autres communautés étrangères la venue sur notre sol.
Voilà, c'est considéré comme un pays en guerre, au même titre que la Syrie. Hein, donc, que l'on vienne d'Irak ou de la Syrie, y a une acceptation de la part du gouvernement français qui est plus importante.
Hein, voilà. Et quand vous disiez que vous étiez en lien avec aussi le gouvernement irakien en Irak, là-bas,
oui, parce que pour qu'ils obtiennent le visa...
Ah, l'autorisation de quitter quand même le sol.
De quitter l'Irak et surtout l'autorisation de venir s'installer en France... Légalement. Il leur faut un visa. Mmh. Il faut un visa signé par le ministère de l'Intérieur. Donc, ils l'ont eu. Et ils sont arrivés en avion. Je crois que c'était à Saint-Étienne, d'ailleurs. C'était pas... mmh. Enfin, on est allé les chercher à la sortie de l'avion. Et on les a amenés... À Lucandiwa.
Mmh. Oui, c'est ça pour faire une différence avec le reste, je pense, de la communauté yézidi qui n'a pas... sans doute pas toujours cette chance. Est-ce que c'est aussi des gens qui traversent la Méditerranée clandestinement? Ils font partie des populations qui sont touchées.
Plus que menacés, ouais. puisque ils étaient vraiment dans cette bord. Hein. Donc ils ont eu le visa. Mais bien entendu, toujours aujourd'hui, il y a des yézidis qui n'ont pas le visa et qui sont dans des situations dramatiques. Je veux dire, le problème... continue.
Ouais,
hein.
Persiste. Ouais.
Ah, c'est-à-dire que Daesh s'est quand même retiré des zones de... Ouais. Là-bas, qui s'appelle...
Ouais. C'est le Kurdistan irakien.
Oui, mais il y a une soixantaine de familles yézidis dans la vallée. Donc nous, le REDAR, un acteur parmi beaucoup d'autres. Et nous faisons vraiment du sur-mesure. C'est un choix dès le départ d'accueillir des familles en situation légale d'autres acteurs se chargent des familles et des individus en situation illégale. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, on peut presque parler de Yézidi Biovalley, parce que c'est une communauté qui s'entraide et qui a très à cœur de maintenir ses traditions, vu que c'est, on a, les Daesh a vraiment cherché l'extermination. Et vous avez sans doute entendu parler de ces raptes de femmes pour un esclavage sexuel et domestique par la suite, et du prix Nobel l'an dernier qui a été accordé au docteur Mukwege. De RDA et à une femme yézidi qui fait un travail remarquable pour sa communauté.
Est-ce qu'il y a un lien justement entre tous ces différents acteurs que vous citiez dans la vallée pour avoir pris spécifiquement les yézidis et que donc finalement ils se retrouvent aussi en communauté ici, c'est un hasard?
C'est un peu un hasard. Ouais. En fait, c'est parce que la situation des yézidis en Irak était dramatique en 2017 et 2016, qu'il y a eu un effort considérable dans cette direction. En fait, c'est la gravité de la situation.
Et également, les personnes qui sont parvenues ici chez nous cherchent et réussissent à faire venir leurs proches. C'est beaucoup de regroupement familial. Dans le cas de la famille dont nous parlons, la sœur aînée était déjà installée dans la vallée et elle a contribué à extirper une partie de la famille, pas toute, de la situation terrible qu'ils ont vécue 3 ans dans les camps.
Alors pour continuer à faire le parallèle entre les personnes qui arrivent effectivement illégalement sur le sol, on en entend énormément parler, et votre démarche, c'est d'aller, de faire en sorte que ceci se passe bien et légalement et que l'État français ne mette pas de bâton dans les roues de ces personnes. Quel lien on peut faire entre ces deux travaux? Parce qu'on voit aussi dans la vallée, puis on peut citer Cédric Abou par exemple, des gens qui ont vraiment accueilli de manière, j'allais dire, urgente finalement, des gens qui débarquent ici.
C'est-à-dire que l'association a fait un choix, et c'est dans les statuts de l'association, nous n'aidons que les migrants arrivant dans des conditions légales. Ça, c'est un choix de l'association, et c'est inscrit dans les statuts. Alors, bien entendu, on s'informe de la situation de migrants qui sont dans des situations illégales. Alors, il y a d'autres on est en relation avec les autres associations d'accueil de migrants. Il y a le VDAR sur Cray. Il y a une association générale que l'on appelle le CARDAV pour l'ensemble du département de la Drôme. Donc, bien sûr, on se tient au courant de l'ensemble de l'évolution en ce qui concerne les migrants dans le département. Et puis, bien sûr, il y a aussi dans le département des jeunes, surtout, arriver dans des situations illégales. Donc nous, on se tient au courant, mais d'après nos statuts, on ne peut pas les aider.
La particularité de ce choix qui a été fait au départ, moi je n'y étais pas encore, c'est que par conséquence, la famille ne traverse pas en encourant tous les dangers depuis les camps du Kurdistan jusqu'en France. En choisissant la voie de la légalité, on épargne à ces personnes déjà très fragilisées tous les dangers encourus et le risque de mort.
Ça veut dire que vous êtes présent, j'allais dire, en Irak. Il y a des relais là-bas qui vont venir faire en sorte que l'accueil soit déjà prêt ici et puis là-bas.
La situation a changé. La situation a changé malheureusement, elle a changé de façon plutôt défavorable. C'est-à-dire que le consulat d'Erbil en Irak est maintenant un peu moins favorable à faire venir des yézidis d'Irak ou d'autres Irakiens, ça a un peu changé. C'est pour ça que la nouvelle famille que nous, on va accueillir, on va passer par une association, ça s'appelle les couloirs humanitaires, et on ne sait pas quelle famille va venir. Ce ne seront pas forcément des yézidis. Il y a eu un changement qui est dû au fait que Daesh a disparu, que la paix, entre guillemets, s'est plus ou moins installée.
Les autorités françaises considèrent qu'elles sont moins réfugiées. Elles ont moins droit à être réfugiées.
Voilà. Et d'ailleurs, cette famille, Lalo, voulait faire venir une autre famille de sa connaissance d'Irak, et il y a eu le refus du visa. pour le moment, ils n'ont pas eu l'autorisation.
Donc l'Irak considère qu'effectivement, ces personnes sont maintenant un peu plus en sécurité.
Pas l'Irak, les autorités françaises en Irak.
Les autorités françaises. Ah.
Hein, voilà, c'est toujours. Donc il y a énormément de yézidis aux Pays-Bas, il y en a aussi beaucoup en Allemagne. Ouais. Donc ceux qu'on accueille ont la chance d'avoir migré en famille et ils ont conscience de la sorte de sécurité affective qu'ils ont, hein, parce qu'ils ont traversé des choses très dures, ce sont des survivants. Hein. Et donc ils ont ce groupe familial, leurs amis qui sont dans les pays voisins européens ont souvent migré seuls. Et vivent cette immigration très différemment, ça c'est sûr. Donc voilà, faire le choix de la légalité, c'est aussi assurer ce confort du transport, c'est l'unité familiale.
Le couloir humanitaire, du coup, là vous ne savez pas, même pas de quel pays va venir la famille ?
Probablement, alors justement, lors de l'Assemblée Générale, à laquelle nous convions toutes les auditrices.
Enfin, on s'en fout, c'était pour discuter. Hein, dire, c'est pas très grave du pays d'où il vient. Là,
nous en saurons plus, puisque c'est Isaline Merle, qui représente le couloir humanitaire à Valence, qui va nous présenter le travail de ce dispositif créé en 2017. Et les familles proviendront probablement d'Irak ou de Syrie.
Ou du Liban.
En tout cas, elles séjournent actuellement dans un camp au Liban.
Voilà.
Et donc les couloirs humanitaires se sont créés à l'initiative de la communauté Sant'Egidio, ce sont des catholiques, et d'une fédération protestante.
Ils arrivent à se mettre ensemble.
Ah oui, c'est très bien.
Je ne pense pas que ce soit la première fois.
Non, ce n'est pas la première fois.
Soulignons-le quand même.
Ce n'est pas la première fois.
Et donc, il y a eu en 2017 un afflux de réfugiés au Liban. Et donc, catholiques et protestants se sont organisés et ont obtenu très officiellement, avec le concours du ministère français de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères, la création d'un couloir qui permet de choisir les personnes les plus vulnérables, personnes âgées, personnes malades, jeunes, enfants, et de les faire venir directement du Liban en France. Alors, n'allez pas croire qu'il s'agit d'un flux massif. Hein. Les couloirs de l'humanitaire, là, à Valence, elles...
Les gens ont déjà eu peur, ils ont voté, c'est bon.
De ce côté-là, à 10, ça va.
Mais il y a, aux couloirs humanitaires, ils ont, je ne sais pas combien ils ont de familles à installer, mais pas beaucoup.
Ils en ont installé une dizaine depuis 10 ans.
Voilà.
Parce qu'ils sont très exigeants sur les conditions d'accueil. C'est-à-dire que... Pour les couloirs humanitaires, ils ne veulent surtout pas que ça repose sur une seule personne. Ils veulent en face, d'une part, un collectif qui puisse faire face à tous les aléas de l'accueil dans le temps et qui fournisse un réseau social élargi à la famille. Et d'autre part, ils veulent que le dispositif d'accueil retenu travaille dans le sens de l'autonomie progressive des personnes.
Exactement ce que vous faites un peu.
Il faut un collectif, une association reconnue, hein, et il faut aussi avoir la possibilité de logement, ce que nous avons.
Donc c'est-à-dire les couloirs humanitaires veulent un accompagnement administratif, scolaire, santé, mais aussi, ils insistent, humain et amical.
Voilà. Alors comment on leur prouve ça ? Notamment sur l'administratif, le scolaire, tout ça, vous avez donc une batterie, j'allais dire, de juristes, de gens...
Oui. Mais on a l'exemple, parce que les couloirs humanitaires, on leur a dit, nous avons déjà installé une famille, nous avons assuré l'accompagnement au niveau santé, au niveau langue, au niveau administratif. Nous avons l'expérience complète d'accueil d'une famille sur une période de 2 ans avec logement fourni. Donc on a quand même une expérience de ce côté-là.
Et puis le fait que nous soyons organisés en commission avec des remplaçants, bon, tout ça est très bien rodé, demande beaucoup d'engagement, mais ça tourne bien dans tous ces domaines que nous avons déjà cités. Donc ça rassure les couloirs humanitaires. Mais de toute façon, le jour de l'Assemblée générale, la représentante va venir, va visiter le logement que Jean-Claude a largement participé à trouver et va nous rencontrer, nous parlera lors de l'Assemblée générale et va se faire son idée.
Ouais, donc en fait, rien n'est joué peut-être.
Oh. On est très confiants.
Oui,
ces couloirs humanitaires, ils recherchent ce que nous, on peut leur apporter.
Oui,
ils recherchent. Moi, quand je leur ai téléphoné, ils ont dit « Oh, mais c'est formidable, mais on est très contents. »
Et le paradoxe, c'est que ça fait plusieurs mois qu'on cherche. Donc, c'est, voilà, offre, demande, bon, voilà, on s'est rencontrés. Et en plus, la nouvelle famille pourrait déjà arriver, sauf qu'en juillet-août, la compagnie Air France, qui accorde des tarifs avantageux aux couloirs humanitaires, ne fait pas ça pendant l'été.
Bien sûr.
Il y a vraiment des besoins, beaucoup de familles qui sont...
Et puis le logement que l'on a, il était en rénovation, donc il sera disponible en septembre-octobre, voilà. Donc il y avait un délai, mais qui était souhaitable. Hein.
Nous en profitons pour remercier tous les donateurs qui nous ont permis d'aménager ce logement. Et puis bien sûr les loueurs aussi, sans lesquels on n'aurait pas pu trouver et aménager ce grand appartement.
C'est l'occasion de rappeler, on les fait où ces dons ?
Lors de l'Assemblée Générale.
Lors de l'Assemblée Générale.
Ou en déposant un chèque dans la boîte aux lettres du Redar à l'espace social, hein, en bas.
Et il n'y a pas une plateforme Internet ?
Si, il y a.
Nous avons un site Internet.
Il y a Eloasso, non, sur lequel.
Oui, il y a Redar, je pense que si on fait Redar, on trouve.
On le coupe. Non, mais justement, Eloasso, c'est quelque chose qui permet de faire de la collecte de dons de manière. Sans prélèvement, je le glisse comme ça.
À noter.
Voilà, notez-le.
Oui, j'ai des assos qui sont.
Françoise...
Donc l'AG, c'est le 26 juin à 19h à la salle communautaire de l'espace social, place de l'Évêché.
Adi.
Avec donc cette personne des couloirs humanitaires, donc j'ai oublié son
nom. Isaline Merle.
Voilà, pour présenter ce projet. Françoise, vous parliez tout à l'heure d'un réseau humain. Alors c'est quoi un réseau humain ? Quel réseau humain vous mettez à disposition des personnes réfugiées ?
Eh bien, le Redar, c'est un conseil d'administration hein, dont nous sommes membres tous les deux, Jean-Claude et moi, dont nous sommes à peu près une dizaine, mais c'est aussi plein de bénévoles qui agissent en fonction de leurs affinités ou de leurs compétences. Une infirmière, une ancienne infirmière.
Oui, oui.
Un juriste, un ancien expert comptable, une personne sans qualification particulière. Et donc, chacun et chacune est engagé dans une commission la plupart rencontrent régulièrement les différents membres de la famille pour un soutien régulier. À ce titre, se nouent des liens qui sont pas si évidents que ça, puisqu'au départ, on ne partageait pas la même langue. Et puis, il faut respecter le désir d'intimité de la famille, vie très, très, très éloigné d'une autre sous certains aspects. Ce sont des familles traditionnelles. Et puis de l'autre, dans cette famille, des membres qui souhaitent énormément s'ouvrir à notre mode de vie, à nous. Donc voilà, le côté humain, c'est sympathiser. On est très éloigné de la charité.
J'allais dire de la charité et puis de l'action éducative de type action sociale. Parce qu'on va avoir des éducs qui viennent de manière régulière, etc., surveiller, ou non pas surveiller, mais accompagner de manière un peu intrusive, j'allais dire.
Non, pas là, du on tout. L'entend pas. Heureusement que nous avons.
Les rencontres, par exemple, elles se font comment ? À leur demande ? Ou vous êtes.
C'est toujours négocié. On propose.
Oui, oui. Ouais.
On propose. Est-ce que tu es d'accord pour que. Une telle te soutienne en histoire tous les mardis. Tiens, tu vois, tu as un trou dans ton emploi du temps. Non, je préférais. Bon, voilà. Et ensuite, ça s'installe à l'année. Donc, on a la chance de bénéficier d'une équipe à la cité scolaire très ouverte à ces questions. Et également, les services sociaux de la ville et du département qui se sont petit à petit greffés et ont pris en charge une partie des tâches administratives concernant la famille. Hein, puisque ça va de 18 ans et plus jusqu'à la plus petite à 4 ans, je crois. Donc, heureusement qu'on travaille en bonne entente avec tous ces partenaires.
Oui, en fait...
L'apprentissage du français est fondamental, bien sûr.
Et vous avez appris l'irakien, au passage ?
Ah non, on n'a pas
Monsieur Lalo essaye de nous apprendre à la fois le yézidi et l'arabe, tandis que nous essayons de lui apprendre le français.
Oui, parce qu'il n'y a pas de langue irakienne, pardon.
Parce qu'en fait, leur langue,
c'était... Le Kurmanji.
Oui, le Kurmanji, c'est-à-dire avec des caractères arabes. En plus, ça compliquait. Parce qu'il y a aussi, avec les caractères latins, côté turc. Mais manque de sens, eux, c'est des caractères arabes. Donc c'est encore plus compliqué pour eux, l'apprentissage du français.
Mais au-delà de la blague, c'est bien, c'est intéressant. Vous les suivez un peu ces cours qui vous donnent, là, justement, de langue yézidi.
Je dis ça parce que, par exemple, en randonnant avec... Monsieur Lalo, le père de famille, eh bien oui, nous avons eu des échanges linguistiques très intéressants, mais étonnants, puisque tchouk-tchouk, c'est en Kurmanji, on dit, c'est oiseau, par exemple. Mais je ne suis pas sûre qu'il ait été très intéressé pour retenir les mots en français, mais peu importe. Il a 50 ans passés, Et il suit des cours de français, ceci dit, régulièrement à domicile, justement par un bénévole du village de Luc. Et non, en fait, cette famille suit l'itinéraire classique et est tellement fréquent dans le monde et dans l'histoire d'une immigration, simplement bénéficiant d'un accompagnement sur mesure qui n'est pas parfait. Par exemple, on aurait pu et on aurait dû assurer un soutien psychologique le plus rapidement possible dès le départ pour des gens qui ont vécu des traumatismes. Mais ça, on a retenu la leçon et pour la prochaine famille, on s'y prépare. L'accueil est ce qu'il est, on essaye de faire au mieux et puis c'est des moments très sympathiques.
Hein. Mais l'accueil à Luc, par exemple, de la mairie de Luc, a été très positif.
Des habitants.
Il y a eu une fête, à un moment, il y a un an, il y a eu une fête à Luc-en-Dijois, la famille présente, tout se passe très bien.
Et voilà, les habitants, vous n'avez pas de retour
Non, ça se passe très bien. Il y a quelques difficultés, mais on leur avait trouvé un logement hein, quand ils sont arrivés, grâce à l'Église catholique, hein, qui était disponible. Et donc, ils sont restés plus d'un an dans ce logement. Et ensuite, comme c'était un peu petit, ils ont trouvé un nouveau logement à Luc-en-Dijois, toujours, avec jardin plus grand. Donc, ils sont bien logés maintenant.
La difficulté, c'est peut-être l'accès au travail.
Oui.
C'était ma prochaine question, hein, parce qu'évidemment, tous les migrants illégaux, eux, n'y ont même pas droit. Et alors, ceux-ci ?
Alors, donc, ceux-ci, quand ils ont 18 ans, quand ils atteignent l'âge de 18 ans, ils obtiennent un titre de séjour assez facilement du fait de leur intégration et justement de leur maîtrise assez bonne de la langue française. Mais nous faisons tout pour les soutenir dans un parcours scolaire qui leur donne une certification, quelle qu'elle soit, qu'ils arrêtent avant 18 ans ou après. Mais pour le travail, c'est comme ici, en général, la question du travail est difficile. Et c'est peut-être pas dans le Diwa que eux vont pouvoir s'insérer. C'est vrai qu'en rejoignant la communauté yézidi, entre eux, c'est l'histoire classique de l'immigration, les immigrés s'emploient aussi entre eux, ils peuvent se favoriser, se trouver du travail. Donc nous souhaitons que ce soit dit à Cré, à Valence, qu'ils trouvent du travail, mais c'est difficile. Ils ont du travail saisonnier. Un des jeunes travaille à garder les brebis. Les parents ont fait de la cueillette d'ail.
Le père, Rudy Dallalo, cherche du travail en ce moment. Il n'a pas d'emploi, il cherche du travail.
Oui, en fait, même avec le statut de réfugié politique, on ne peut pas travailler.
On peut travailler, il n'y a aucun problème. Hein.
C'est que l'offre d'emploi, on a bien compris.
Oui, là, ils n'ont aucun problème au niveau emploi, aucun problème. Mais la difficulté, c'est bien sûr que, par exemple, le père parle difficilement le français. Eh bien, c'est un handicap quand vous cherchez un emploi.
Également, l'éloignement géographique de Luc. Pour des gens qui n'avaient pas de voiture jusqu'à présent. Et ce monsieur, Rudida, le père de famille, ça fait plus d'un an qu'il attend la traduction de son permis de conduire. Ça s'est perdu dans nos aléas administratifs horribles. Donc, il ne peut toujours pas conduire. Donc, les boulots, c'est pas forcément... C'est même très rarement à Luc. Au moins à Di. Beaucoup de freins.
Oui.
Alors, le 26 juin, c'est l'AG du Rédard. Elle est ouverte au public, du coup ?
Bien sûr.
Voilà, comme toutes les AG, en fait.
Bien sûr, comme toutes les AG. Hein.
Ouais.
Oui.
Et ce sera l'occasion de quoi, pour vous, d'un renouvellement de CA également
Ça vient plutôt après.
D'accord.
Il peut y avoir des personnes qui arrêtent d'être dans le conseil d'administration. C'est une AG, mais c'est comme toutes les AG. Il n'y a aucune différence.
C'est-à-dire que ça va être l'occasion de répondre aux questions des gens qui se demandent s'ils veulent nous rejoindre, qui hésitent. Donc là, ils pourront nous rencontrer en chair et en os. Il y aura bien sûr un rapport moral, un rapport financier, enfin les étapes obligatoires d'une AG. Il y aura aussi, assez rapidement, l'intervention donc de cette femme représentante du couloir humanitaire qui va nous parler de la prochaine famille. Et puis ça sera suivi d'un buffet.
Voilà, un petit buffet. Puis l'adhésion à l'association, hein, qui est de 5 euros ou de 10 euros. Donc on peut adhérer à l'association. L'association a près de 90 adhérents. Hein, donc c'est bien, ça marche correctement. Hein,
Vous cherchez toujours des bénévoles, par exemple, pour mener les petites commissions ou voilà, donner temps pour l'histoire, par exemple.
Plus que jamais, puisque la famille va être... pour être assez nombreuses. Et on se rend toujours compte que, comme tu le disais, Jean-Claude, l'apprentissage de la, du français le plus vite possible est un grand plus.
Au niveau de, des associations, on considère que pour un migrant, le mieux, c'est qu'il y ait 5 bénévoles pour un migrant. C'est ce que l'on dit au niveau associatif pour les associations dromoises. Voilà. Ça ne suffit pas d'avoir simplement payé sa cotisation de 5 euros. On a besoin, de, comme toutes les associations, hein, de bénévoles actifs qui, par exemple, donnent des cours de français ou soient compétentes au niveau administratif. Des fois, c'est compliqué. Voilà. Parce que, par exemple, quelqu'un qui ne parle pas le français... Il doit voir le médecin. Ben, il faut quelqu'un pour l'accompagner.
Ou alors pour également une aide à l'outil informatique, l'actualisation des situations sur les, sur les portails administratifs informatiques.
Surtout que c'était des pays qui parfois n'ont pas accès du tout aux portails administratifs, à Internet tout simplement.
Mais bon, ils s'y mettent très vite. Hein.
Ouais, comme bon, j'imagine bien.
Ah bah, ça veut dire, ils se mettent très vite au téléphone et
oui.
À ses usages.
Ouais. J'entendais parler de la cité scolaire tout à l'heure. Ces enfants sont scolarisés, donc tous.
Ah oui, bien voilà. Sûr. Adi
et puis la petite.
Luc, je crois.
Il y en avait une en école primaire à Luc qui va faire son entrée en 6e à Adi en septembre. Et puis une toute petite, enfin la petite fille qui est à la crèche à Luc.
Alors comment ça se passe? Il y a un temps particulier qui leur est justement mis à disposition? Parce que bon, on parlait d'histoire tout à l'heure, mais enfin l'histoire de l'Irak et apprendre l'histoire de France maintenant en rentrant en 3e ou en 4e.
Il y a des aides, des cours complémentaires apportés par l'éducation nationale.
Un peu moins cette année, français langue étrangère. Le lycée fait vraiment tout ce qu'il peut, mais les heures sont insuffisantes, ceci dit. Hein, parce que l'apprentissage du français comme une langue étrangère, c'est un métier à part entière. Donc nous, on fait du soutien à la scolarité, aux maths, au français, à la philo.
Et l'espace social, justement, où il y a une autre école aussi qui fait du
ABC.
Français, langue étrangère.
Oui.
Voilà,
l'atelier ABC, les parents... Toute la famille est passée au démarrage par l'atelier ABC, mais qui en fait, ne correspondait pas à certains des enfants qui étaient suffisamment avancés dans l'alphabétisation et la maîtrise de deux langues, arabe et komanji.
Il faut ajouter que quand même, le Diwa a toujours été une terre d'accueil.
Et ça se voit.
Voilà. Donc, c'est même un peu paradoxal qu'il n'y ait que pour le moment qu'une seule famille de migrants accueillis. Il y a eu d'autres périodes dans le passé où de nombreux migrants se sont installés dans le Diwa. Et il faut ajouter que le migrant, c'est une richesse. C'est une diversité culturelle. Moi, j'ai appris des choses grâce à la famille Lalo que je n'aurais pas appris parce que je me suis dit, ah, tiens, mais je peux m'intéresser à l'histoire de l'Irak, au soufisme, etc. etc. C'est une diversité qui est enrichissante.
Je vous donne un exemple. Moi, quand je suis un jeune particulier et quand je l'interroge, est-ce que tu as toujours tes amis? Il me dit, j'ai un ami. Et je lui dis, par curiosité, il est franco-français? Non, il vient d'un autre pays d'Afrique. Et il m'explique que c'est un ami qui partage la même conception de l'amitié que lui, et que ça, il ne l'a pas rencontré chez nous autres. Et donc, ça nous a fait, on en a beaucoup discuté, pour essayer de comprendre pourquoi, apparemment, hein, chez les Yézidis, comme en Afrique de l'Ouest, quand on a un ami, je parle d'hommes, l'amitié masculine, des garçons et des jeunes hommes, on donne sa chemise, on ne compte pas, on partage tout. Et il est très étonné et surpris, il est pris au dépourvu par des attitudes qui nous paraissent normales à nous. Par exemple, un copain, entre guillemets, va lui vendre un bouquin de classe. C'est inimaginable. Donc moi, voilà, l'enrichissement dont tu parlais, Jean-Claude, c'est que moi, ça me fait réfléchir à l'individualisme qui gangrène notre quotidien.
Et pourquoi est-ce que ça ne va pas assez vite, paradoxalement, Jean-Claude, dans le Diwa, l'accueil? Est-ce que c'est parce qu'on n'a plus les moyens? C'est trop long administrativement, c'est trop compliqué.
Il y a les lourdeurs administratives.
Il n'y a plus l'envie.
Oui, j'ai pas beaucoup d'explications parce que le gouvernement n'est quand même pas terrible au niveau de l'accueil migrant quand on compare l'Allemagne, ce qui s'est passé en Allemagne. Il y a ça. Il y a une espèce d'inertie naturelle. Moi j'ai d'autres trucs à faire. Enfin bon, je vais pas m'occuper des migrants. Il y a plein de raisons variées. Mais je répète que le Diois est un pays d'accueil.
J'ai un point de vue un petit peu différent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le Diois qui accueillent. Oui. Simplement, ils ne le crient pas sur les toits parce que la personne est en situation irrégulière.
Voilà.
Donc voilà, donc nous, c'est tranquille, on peut venir à Radio Diois et on peut nommer
la
famille. Mais il y a vraiment un paquet de personnes, voilà. Donc je pense que l'accueil se fait simplement discrètement.
Oui, il y a les accueils discrets qui existent.
Et continue dans le temps avec la cuisine, beaucoup de choses. Et puis à l'espace social, le vendredi après-midi, justement, l'accueil des personnes aussi.
Bon, il faut reconnaître aussi, alors ça c'est qu'au niveau possibilité d'emploi, il est évident qu'un migrant a plus de probabilité de trouver un emploi dans les grands centres urbains. Et venir dans un territoire rural comme ça, ça pose des difficultés. Donc il y a aussi ce côté-là.
Mais aller dans les grands environnements urbains pose aussi d'autres difficultés.
Il y a aussi d'autres difficultés.
Voilà, qu'on ne va pas nommer ici.
Je m'aperçois que nous avons oublié la moitié du nom de notre invité lors de l'Assemblée générale. Ce n'est pas Isaline Merle, c'est Isaline Merle d'Aubigny. Je ne voudrais pas...
Surtout pas.
Ou Merle d'Aubigny, ce qui est un nom d'origine protestante, je pense, d'Aubigny.
Bon, merci Françoise, merci Jean-Claude pour cette présentation de l'AG du 26 juin à la salle communautaire de l'espace social de Die. Du Rédard, la prochaine.
À la prochaine.
Merci.
Interview. Ok, de belle. L'interview du jour.